VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le président américain Donald Trump doit annoncer ce mercredi que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël et envisagent de transférer dans cette ville leur ambassade actuellement à Tel Aviv. Réaction dans le monde musulman, les délégations palestiniennes et jordaniennes à la Ligue arabe ont demandé aujourd'hui une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'organisation pour discuter de la décision de l'administration Trump, réunion qui devrait se tenir samedi. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan compte organiser le 13 décembre à Istanbul un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique pour permettre aux pays musulmans d'agir de façon unifiée et coordonnée face à ces développements, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin. Mais selon un communiqué de la Maison-Blanche, la décision du président Trump ne fait que, je cite, « reconnaître une réalité historique et contemporaine », Jean-Roger Bion.
Pour préparer le terrain, M. Trump a appelé hier 5 leaders du Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdullah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Dans son communiqué, la Maison-Blanche donne très peu de détails sur ces conversations, se contentant de dire que les leaders ont aussi discuté de décisions potentielles sur Jérusalem et que M. Trump a réaffirmé son engagement en faveur du processus de paix entre Israël et les Palestiniens et l'importance du soutien à ces pourparlers. Des officiels de la Maison-Blanche ont précisé hier soir que le président Trump reconnaît que Jérusalem est non seulement la capitale d'Israël, mais a été le siège de son gouvernement depuis la fondation de l'État hébreu en 1948. Selon eux, le président américain donnera des ordres au département d'État pour qu'il commence à préparer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv. Il souligne que ce processus prendra des années pour trouver un site, assurer le financement et construire un nouveau bâtiment. Entre-temps, M. Trump continuera de signer la dérogation annuelle, retardant la relocation. Pour leur part, les leaders arabes et musulmans ont averti que toute décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem pourrait enflammer les passions dans la région et détruire les efforts américains pour un accord de paix israélo-arabe.
Au Vatican, le pape François a appelé au respect du statu quo à Jérusalem. Algérie, le président français Emmanuel Macron a entamé ce mercredi à Alger sa première visite dans le pays en tant que chef de l'État. Il dit s'y rendre ami, refusant d'être otage du passé douloureux entre Paris et son ancienne colonie. En Guinée, la date des élections locales confirmée par décret présidentiel, le président Alpha Condé a convoqué mardi les électeurs pour élire les maires des communes urbaines et rurales le 4 février prochain. Cette date est une proposition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour les premières élections communales depuis l'arrivée au pouvoir du président Condé. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a tendu son micro à quelques habitants de la capitale guinéenne.
Je suis confiant, je sais que vraiment les séances auront lieu, puisque ça a beaucoup traîné. La façon dont je vois les choses se passer entre mouvance et opposition, je crois qu'il y a bon vent.
Je pense que c'est une bonne chose que le président arrive à convoquer le corps électoral parce qu'on en a tant attendu. Maintenant, Dieu merci.
J'ai pris bien que ça se passe dans les bonnes conditions, que la cohésion sociale soit maintenue, que nous sommes avant tout tous des Guinéens.
Des Guinéens contactés à Conakry par notre correspondant Zakaria Camara. Au Togo, l'opposition a annulé sa marche prévue jeudi tout en appelant à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. Les précisions de Morgan Liriek.
Nous avons annulé notre marche de jeudi car nous souhaitons manifester 2 ou 3 jours d'affilée, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de 14 partis d'opposition qui organise des marches quasi hebdomadaires. Des manifestations qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes depuis début septembre pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et le départ du président Faure Gnassingbé. Les opposants ont également dénoncé la stratégie de la terreur dans les villes Corée du Nord où une quinzaine de manifestants et deux militaires ont été tués. Après des mois de mutisme, M. Nyasingbe a annoncé la tenue d'un dialogue avec l'opposition d'ici à quelques semaines, mais l'opposition maintient la pression. Elle réclame des mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes détenues, la levée de l'état de siège et le retour des militaires dans les casernes comme préalable à toute discussion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, vote à l'Assemblée nationale lundi du projet de loi électorale en l'absence de l'opposition qui a boycotté cette initiative. Le projet, qui prévoit entre autres une machine à voter et un seuil de représentativité pour les candidats aux législatives, ne fait pas l'unanimité, même au sein de la majorité présidentielle. Henri Thomas Lokondo, un député de la majorité qui exprime son désaccord, veut saisir la Cour constitutionnelle. On l'écoute.
L'article 118 de la loi que nous avons examinée hier arrête un seuil de représentativité de 1% pour toute l'étendue du territoire national. Cela veut dire que l'indépendant est exclu de la compétition. Or, justement, l'article 111 dit qu'un indépendant peut se présenter. Je me suis posé la question de savoir comment on peut calculer le seuil de représentativité d'un indépendant quand il n'est pas représenté sur toute l'étendue du territoire national. Être de la majorité de l'opposition ne vous donne pas le pouvoir de violer la constitution ou les lois de la République. Bien que, bon, je suis de la majorité, mais laisser passer cet impair-là, c'est pas crédible pour la République.
Henri Thomas Lokondo, un député de la majorité présidentielle à Kinshasa, au micro d'Eddie Isango. Au Congo-Brazzaville voisin, Éloi Sikoula, secrétaire général de la formation Unie pour le Congo, l'UPC, a préconisé ce mardi à Brazzaville la libération de Paulin Makaya, un opposant condamné à 2 ans de prison pour trouble à l'ordre public et qui a déjà purgé sa peine. Pour les militants de l'UPC, il s'agit d'une détention illégale. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme, Paulin Makaya a purgé sa peine et devait être libre depuis la semaine dernière. Au niveau de Unis pour le Congo, sa formation politique, les militants sont impatients de le revoir. Éloi Sikoula est le secrétaire général de l'UPC.
Paulin Makaya est même ce leader que ce peuple attend. Jusqu'à aujourd'hui, il est attendu qu'on le libère. Il est attendu par ce peuple et ses militants. Qu'on nous donne seulement cette occasion de préparer sa sortie, vous allez comprendre que Paulin Makaya, c'est vraiment un leader. Vous savez que dans ce pays, pour mobiliser, il fallait l'argent. Mais Paulin Makaya disait toujours à ce peuple, à ce Congolais, non, il faut dire à l'homme politique que nous sommes, on travaille vous, pas en bas vous.
Depuis des semaines, l'Observatoire congolais des droits de l'homme mène une campagne de libération de tous les acteurs politiques en prison. Face au maintien de Paulin Makaya en cellule, Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif de l'OCDH, dit préparer une vive réaction.
La crainte, c'est de voir Paulin Makaya continuer à rester inutilement en prison. Il n'y a pas que Paulin Makaya, il y a plusieurs détenus que nous qualifions de prisonniers politiques qui ont des autorisations de sortie, donc des ordonnances de mise en liberté, mais qui ne sont pas exécutées, qui continuent à être en prison. Donc il faut bien craindre que malgré que Paulin Makaya arrive à la fin de sa peine, qu'il continue à rester en prison. Et si d'ici la semaine prochaine, il est toujours en prison, nous ne manquerons pas de s'exprimer comme on l'a fait dès le début de son interpellation.
Pour la juriste Monica Ngalula, le juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Brazzaville était censé savoir que Paulin Makaya devait être libre depuis 6 jours. C'est un vice de procédure, a-t-elle expliqué.
Normalement, c'est le juge qui doit veiller à ce qu'il soit mis en liberté. Et c'est automatique. Quand tu purges ta peine, aussitôt tu dois être relaxé. Ce n'est plus là en ce moment-là le procureur ou un juge d'instruction, mais c'est le juge de l'application des peines. Parce que lui, il veille sur les dossiers des condamnés qui sont placés à la maison d'arrêt. En ce moment-là, on parlera de vice de procédure. Et le condamné, normalement, il doit porter plainte contre les autorités judiciaires.
Depuis les arrestations dues aux actes politiques de 2015, Paulin Makaya est le seul leader politique qui a pu être jugé et condamné pour trouble à l'ordre public. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Crise migratoire pour terminer. 144 ressortissants nigérians qui se trouvaient dans des camps de détention en Libye sont arrivés mardi soir à Lagos dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par Abuja. L'ambassade nigériane en Libye a recensé 2778 ressortissants nigérians actuellement dans des camps accessibles et ils sont prêts à être rapatriés, avait annoncé le ministère nigérian des Affaires étrangères dans un communiqué lundi. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.